Et maintenant, retrouvons la chronique de Rony Akrish sur Radio Futaie.
À nos chers auditeurs de Radio Futaie, Shalom, Rony Akrish depuis Hebron. Nous allons lire la paracha de Lech Lecha, ce va vers toi concernant Abraham, et surtout le défi que va relever notre premier patriarche. Là où l'humanité fit échec, eh bien cet homme va relever le défi de l'identité morale, de la manière d'être homme. Alors parlons un peu de cet homme, Abraham, ou plutôt de ce que Abraham voulait faire de l'homme. L'homme est pour lui capable d'innover comme de tout détruire. Il apparaît aujourd'hui comme hier indispensable de construire tout en préservant une harmonie entre toutes les composantes de notre existence. S'il va de soi d'identifier le travail comme le moyen de sa subsistance, la question de la nature de l'homme se pose. Si nous travaillons que dans le but du seul profit matériel, alors vivre ne serait réduit qu'à empocher plus, acheter davantage et posséder encore et encore. Est-ce vraiment le but de l'existence? Est-ce que cela mérite de tels tourments pour gagner sa subsistance? Cela est indubitablement gâcher son être en ne cherchant que son seul avoir. Dès les premiers versets de la Genèse, il est dit que Dieu est le Créateur et que l'homme a été créé à son image. Adam travaille à cultiver son jardin d'Éden bien avant la faute. Il y aurait donc deux sortes de travaux, le travail créateur de Dieu et le travail fécond de l'homme opposé au travail stérile et servile. Chez l'humain, cette différence n'apparaît que dans les formes extrêmes. Très souvent, les deux modèles sont associés. Dieu et l'homme sont réunis dans la création lorsque le projet de l'Éternel trouve en son serviteur un vrai réalisateur. Rabbi Akiba présente au gouvernement romain un épi de blé et un gâteau. Voici une œuvre divine et voilà une œuvre humaine. Cette dernière n'est-elle pas la plus, dirions-nous, la plus belle? Car elle poursuit l'ouvrage, elle est plus raffinée, plus aboutie, dit-il. Si l'être humain est allié du Créateur, les hommes n'auront d'autre choix que de poursuivre son œuvre. Deux mérites valent mieux qu'un. Édifier le temple, rebâtir Jérusalem sont des ouvrages conjoints. Cette œuvre collective sera confrontée aux mêmes épreuves que l'activité privée, la servitude, celle qui affaiblit l'homme. L'œuvre collective nécessite le rassemblement d'hommes libres, raison pour laquelle le Talmud explique que si on a besoin de faire appel à un esclave pour compléter le quorum requis à la prière, on doit imiter Rabbi Eliezer, qui n'hésita pas à émanciper son esclave à cette occasion. Au-delà des règles sociales archaïques, l'esclavage est saisi comme une réalité n'ayant plus aucun rapport avec l'histoire humaine. Dans l'œuvre collective, comme dans l'œuvre individuelle, il n'est pas de sous métier et aucun métier n'est insignifiant. Le travail manuel, quel qu'il soit, est louable. Nos sages disent « une bénédiction ne rayonne que sur le travail des mains de l'homme ». Yohanan était savetier, Abba Shaoul était fossoyeur, Rabbi Hillel était une sorte de manœuvre sans qualification. Mais travailler n'exclut pas de subir les épreuves. Job parle du travail du mercenaire qui attend son salaire. Il parle des nuits consacrées à un travail pénible, incompréhensible, sans espoir et sans repos. Job ne comprend pas que même le juste puisse souffrir. Le travail du fainéant, fait avec négligence ou effectué dans un état d'esprit blasé, mène à l'échec, à la dévastation. Refuser l'épreuve engendre la division, l'approximatif, et jette le blâme sur des hommes démissionnaires, traîtres à la création. Ils n'incarnent plus la continuité de l'œuvre divine. La détresse de notre patriarche Jacob, abusé par son beau-père Lavan, ne fait que nous instruire sur des enseignements repris dans la Genèse, dans le Lévitique, dans le Deutéronome et dans les Proverbes. La Bible possède toute une législation du travail très scrupuleuse sur les droits des travailleurs et sur les droits des esclaves, ainsi que les devoirs des ouvriers envers leurs patrons. Il est vrai que parler des droits des esclaves, c'est d'une certaine manière accepter qu'il y en ait. Affirmation totalement indécente et insupportable pour nos contemporains, mais en examinant notre monde actuel de plus près, voilà une civilisation qui a généré les camps de concentration, qui a accepté le colonialisme, qui a accepté le prolétariat, en clair, nous ne valons guère mieux. Il y a des hommes qui construisent des maisons pour que d'autres y habitent, des hommes qui cultivent des terres pour que d'autres en consomment les fruits, des hommes qui ont froid et faim, et des hommes qui exploitent d'autres hommes. Il y a des hommes qui triment la nuit et qui ne peuvent se reposer le jour. La question des droits des esclaves reste une interrogation tout à fait contemporaine. Les textes bibliques, si on les analyse profondément, démontrent, à n'en pas douter, de la nécessité impérieuse et de la volonté d'abolir l'esclavage. Ces textes nous passionnent encore dans la mesure où, ayant aboli l'esclavage en droit, nous sommes très loin de l'avoir aboli dans les faits. Il est indiscutable que dans l'exercice de sa profession, le travailleur ait des insatisfactions ou, dans l'effervescence de sa vie, il gaspille ses buts véritables. Or, la turbulence humaine est puérile, nous disent les psalmistes et l'Ecclésiaste. Nous brûlons de fièvre comme l'homme illégitime sur qui il est dit dans Ézéchiel « J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui t'a consumé ». Et Zacharia de reprendre « Quand les temps seront venus, le salaire sera équitable ». Mais que faisons-nous en attendant ces temps meilleurs? Nous sommes capables d'élever des tours immenses, mais incapables de vivre ensemble. Dieu nous insuffla le savoir afin de lui construire un temple. Nous l'avons utilisé, certes, mais pour faire un veau d'or. Le roi David lui-même ne pourra point bâtir la maison de l'Éternel, car il avait versé le sang, dit-on. Nul ne peut s'enorgueillir de ses aptitudes, nul ne peut se plaindre de ses difficultés objectives, car ce qui compte, c'est le sens général que l'on donne à sa vie. L'Éternel nous a sortis de l'esclavage en Égypte, encore fallait-il cheminer dans la bonne direction, dans le droit chemin. Face à l'oppression, on a toujours la possibilité de lutter. On peut agir comme Néhémia, qui réunit le peuple et reconstruit Jérusalem, consacrant une main pour bâtir et une autre pour se battre. Face à l'oppression du dehors, l'homme paraît toujours capable d'opposition. Le péril le plus sournois est ailleurs, mais c'est en nous-mêmes que nous portons notre esclavage. Il faut que le maître affranchisse son esclave la sixième année, mais s'il refuse de reprendre sa liberté, il aura l'oreille percée sur le pas de la porte. Talmud de Kiddushin, page 22, recto, indique la raison pour laquelle c'est l'oreille qui est percée. « Car elle sert à entendre les lois, dit-on. Pourquoi ? Sur le pas de la porte, car c'est par là qu'est passé l'Éternel lorsqu'il ordonna à Israël de ne servir d'autre Dieu que lui. » L'œuvre humaine est d'abord à l'image de l'œuvre divine. Elle perpétue la création et détermine la présence de l'Éternel. Noah construisit l'arche pour permettre l'alliance. On édifia le sanctuaire pour permettre à Dieu de résider parmi nous. Mais l'œuvre humaine reste difficile. Il peut aussi tout démolir, bien sûr. L'homme tombe dans tous les traquenards, celui du conflit entre la vie et la matière, celui du déclin dans une pensée dissociée de la vie et celui du déclin dans l'action dissociée de la pensée. Ceux de l'asservissement enduré et du joug imposé. On ne sait être que maître ou serviteur, apparemment. L'homme poursuit aveuglément les faux prophètes à la suite de Hanania, désirant se débarrasser d'un joug qui n'était que le bois. Il se retrouve alors écrasé sous un autre joug, mais de fer cette fois. À l'instar de Charles Taylor, ce puritain égaré, qui fonda une quasi-religion de l'organisation dite scientifique du travail. Nous savons pourtant pertinemment ce que nous avons à faire. Il subsiste un plan de Dieu qui est antérieur à toute création, et si nous souffrons de ne pas connaître ce programme, nous en connaissons pourtant la voie d'accès. « Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, » dit l'Ecclésiaste. « Il a fait toute chose excellente à son heure, il a mis aussi dans le cœur de l'homme le sens de la durée, sans quoi celui-ci ne saisirait point l'œuvre accomplie par Dieu du commencement à la fin. C'est l'âme et non pas la science qui nous enseigne ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Les pratiques modernes du travail n'ont rien changé, les problèmes se posent dans les mêmes termes depuis les temps bibliques. » Le travail s'achèvera soit dans la folie et la ruine, soit dans le salut et la quiétude, selon que l'âme l'aura abandonné ou alors vivifié. Le repos auquel aspire l'homme est à l'image de Dieu. Le septième jour est le repos de l'Éternel, tout comme Sion est le repos de l'Éternel. C'est la double consécration du temps et de l'espace. Notre cœur fonctionne par systole et diastole, par contraction et repos alternés mais indissociables. L'une ne vaut pas plus que l'autre, les deux sont indispensables. L'homme qui honore l'Éternel le fait par le travail de ses mains exactement comme il honore le jour du Shabbat. L'exigence qui nous pousse à chercher un travail, à travailler, est bien plus qu'un impératif économique. C'est la satisfaction entière d'une existence que nous recherchons. Celle-ci ne se trouvant pas uniquement dans le monde du loisir et du plaisir. Elle se réalise également dans l'activité de l'homme, car chacun de nous ambitionne un travail qui puisse devenir sa propre œuvre. C'est dans la ligne d'un accomplissement salutaire que la tradition juive éclaire les problèmes posés par la civilisation. Abraham en est le premier à vouloir essayer de faire entendre raison à la civilisation des hommes. Shabbat shalom umvorach. René Akrish depuis Hebron. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Léhitraot.
C'était la chronique de René Akrish sur Radio Futé.